signifie aimer Dieu de toute son âme. Je mets de côté le premier terme, de tout son cœur, que nous n'avons pas de mal à entendre, même s'il n'est pas sûr que nous donnions le même sens au mot cœur que le texte biblique, mais peu importe. Que signifie aimer ? Et aimer Dieu de toute son âme, puisque l'expression est réservée à Dieu, Dieu qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui sommes humains. Vous remarquerez que le scribe contourne le problème. Il ne reprend pas cette expression de toute son âme, qui pourtant, c'est ce que rappelle la première lecture, vient de la loi de Moïse, du livre du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Il ne reprend pas cette expression, il ne reprend pas non plus la suivante que l'on utilise Jésus de tout son esprit, il le remplace par intelligence. Des cinq termes utilisés, cœur, âme, esprit, intelligence, force, de tout son esprit est probablement aussi difficile que de toute son âme. Autant je peux comprendre ce que peut signifier aimer de tout son cœur. On peut comprendre aussi ce que peut dire aimer de toute sa force. On comprend également de toute son intelligence, même si ce n'est pas ce que nous faisons le plus souvent. Nous gagnerions à mettre un peu plus d'intelligence dans nos relations les uns avec les autres. Mais qu'est-ce à dire que aimer Dieu de toute son âme ou de tout son esprit? Il faut d'abord rappeler que cela peut être une expérience plus que déconcertante, éprouvante. C'est ce que la tradition spirituelle a appelé la nuit de l'esprit ou la nuit de l'âme. La nuit obscure de l'âme dont ont témoigné certains saints, c'est une expression de Saint Jean de la Croix, certains saints qui pensaient ne plus être aimés de Dieu. Ne plus être aimés de Dieu alors qu'ils se consacraient entièrement, tout entier à son service, qu'ils occupaient toutes leurs pensées. Il y a eu ce qu'on a découvert assez récemment sur Mère Teresa. Mais un des exemples les plus spectaculaires de l'histoire, c'est au XVIIIe siècle, Saint Paul de la Croix. Saint Paul de la Croix, le fondateur des passionnistes, qui a vécu 45 ans. 45 ans de désolation intérieure. 45 ans sur 80, persuadé que Dieu l'avait abandonné, que Dieu était fâché, irrité contre lui, qu'il se cachait de lui. Et pourtant, dit sa biographie, en cette interminable épreuve, saint Paul de la Croix montrait une grande patience, 45 ans, une résignation parfaite à la volonté divine et une grande bonté pour tous ceux qui l'approchaient. Souvenez-vous, le sourire de Mère Teresa et la stupéfaction après coup de comprendre qu'elle ne ressentait rien et qu'elle gardait non seulement tout son dévouement, mais ce sourire, une grande bonté pour tous ceux qui l'approchaient. Saint Paul de la Croix dit un jour à son confesseur, « Si l'on me demandait n'importe quand, à n'importe quel moment, à quoi pensez-vous ? Il me semble que je pourrais répondre, mon esprit s'occupe de Dieu. » Waouh ! Pas maintenant, là, à la messe, c'est normal, j'espère que notre esprit s'occupe de Dieu. Mais imaginez ça, n'importe quel moment de la journée, on vous demande, à quoi pensez-vous ? Mon esprit s'occupe de Dieu. Ce n'est pas une prouesse, c'est la promesse de ce que nous vivrons dans l'éternité, dans la lumière divine. Une promesse de bonheur. Et il avait coutume de dire, il me semble impossible de ne pas penser à Dieu. Vu que notre esprit est tout plein de Dieu, que nous sommes entièrement en lui, alors qu'il ne ressentait rien, alors qu'il aimait totalement sans rien ressentir en retour. Cette nuit intérieure n'est pas forcément purificatrice. Un des grands dominicains du XXe siècle, le père Garrigou Lagrange, dans un article qu'il a écrit à la fin des années 30, qui est toujours accessible sur Internet, sur justement la nuit de l'esprit chez saint Paul de la Croix, rappelle que nous, chrétiens, nous ne devons jamais oublier que les grandes souffrances éprouvées par le Christ et par sa mère. Éprouvé par le Christ, il dit, à la vue du péché. La souffrance intérieure du Christ à la seule vue du péché. Ces souffrances, menées jusqu'au bout, jusqu'à s'offrir en victime, ne furent évidemment pas des souffrances purificatrices pour eux, pas pour le Christ, mais rédemptrices pour nous, réparatrices, c'est ce que propose cette distinction extrêmement éclairante, Père Grégoire Lagrange, de voir la différence entre des souffrances, des épreuves purificatrices, il faut que le sarment de vigne soit émondé pour pouvoir porter du fruit, et ce que nous vivons, parfois d'éprouvant, parfois de terrible, qui n'est pas pour nous, qui est comme le Christ, à la suite du Christ, pour le salut du monde. C'est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Ce qu'il poursuit en sa chair, ce qui manque, il complète en sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ, pour son corps qui est l'Église, pour la rédemption, pas pour sa purification à lui. On peut vivre une nuit de l'esprit sans avoir besoin de purification particulière. Mais pour comprendre ce que peut signifier aimer Dieu de toute son âme, il faut revenir à ce que nous sommes, à l'unité de la personne, âme et corps, qui fait, et il faut le rappeler particulièrement aujourd'hui, que l'âme souffre d'être séparée de son corps. Trop souvent on dit, après une maladie, après toutes sortes d'épreuves, la personne est faible, elle ne souffre plus. Attention! La mort, séparation de l'âme et du corps, n'est pas la fin des épreuves ni des souffrances. La mort n'est pas la fin des souffrances tant que l'âme n'est pas réunie au corps spiritualisé, tant que la personne n'est pas purifiée, n'est pas rentrée dans la lumière divine. La mort n'est pas un arrêt, n'est pas la fin, c'est un passage. La réunification définitive, la résurrection finale se fera bien sûr à la fin des temps, mais une scène comme celle de la transfiguration, où Moïse et Élie, des saints de l'Ancien Testament, apparaissent présents physiquement, d'une certaine façon corporellement, et s'entretiennent avec Jésus, voilà ce dont ont témoigné les apôtres, montre qu'on peut entrer avant même la résurrection finale. Les saints, ceux que nous avons fêtés à la Toussaint, retrouvent déjà une forme de corporéité, retrouvent déjà une forme de corps. Et lorsque nous avons prié, lorsque nous prions chaque jour pour les âmes du purgatoire, pour tous les défunts qui ont encore besoin de purification pour pouvoir entrer, s'approcher de Dieu, ces âmes du purgatoire, elles doivent être purifiées pour pouvoir reprendre corps, ressusciter. En allemand, les âmes du purgatoire, ça se dit les pauvres âmes. Ce qui donne un sens renouvelé à la béatitude, heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres qui veulent ressusciter. Mais pauvres âmes séparées de leur corps. Pauvres âmes, pauvres personnes qui n'ont pas aimé de tout leur être. Parce que ressusciter signifie que l'âme spirituelle, l'âme humaine, redevient ce que son essence même veut qu'elle soit, c'est-à-dire l'âme d'un corps. Je dois à Romano Guardini, un des théologiens les plus influents, certainement de la deuxième moitié du XXe siècle, l'idée d'essayer de comprendre, dit-il, de l'intérieur ce qu'est un corps. De l'intérieur. Il le dit en fonction de différentes formes, types de corps. Il dit, un cristal par exemple, une pierre, mais un cristal, il a une corporité dense, cristal transparent, mais pas. Il est pesant, dur, immobile. Voilà une forme de corps. Autre, dit-il, prenez cet exemple, autre est ce pommier, cet arbre qui croît hors de terre, dont la figure se déploie en devenir, qui vit en changement, qui fleurit, qui porte des fruits, en un mot qui pour nous est le signe du vivant. Lui aussi, c'est un corps, mais d'une façon évidemment différente. Autre encore, le cheval ou l'oiseau, qui sont encore également des corps, autrement que la pierre ou l'arbre, ils sont situés librement dans l'espace. Ils ont des facultés de perception et d'opération. Ils s'affirment, se défendent, bâtissent leur abri, mettent au monde une progéniture à laquelle ils se dévouent. Et vous voyez progressivement cette magnifique extension, cette extension vers ce que nous sommes, vers la liberté, vers l'amour, vers justement ce qu'est l'être humain, le corps même, notre réalité corporelle. Ce corps humain, cette personne humaine qui porte en nous ce principe de vie, ce principe créateur, cette âme humaine, dont la portée ne peut pas être délimitée, nous qui sommes capables de vérité, de choix moral, qui avons une possibilité indéfinie d'agir et de faire, jusqu'à même pouvoir être capables, même par notre propre audace, de détruire nous-mêmes notre existence. Le corps humain est si grand que Dieu s'y est incarné. Et non seulement il s'est incarné, il l'a fait entrer corps et âme par son Fils dans l'éternité. Corps et âme. Comprendre de l'intérieur, pour essayer de prendre conscience justement de ces différentes formes de corporalité. Et pour nous, de deux qui nous concernent en particulier, l'une terrestre, l'autre céleste, suivant le vocabulaire le plus ancien, l'une pour nous qui n'est plus animale, mais l'autre qui n'est pas encore divine. Et dans une réflexion très voisine de celle d'un de ses contemporains, Martin Buber, philosophe juif, livre remarquable, Le jeu et le tu, justement sur l'autre, le visage de l'autre. Romano Guardini posait cette question très semblable, il disait, où est-ce que le corps humain a le plus d'intensité et de valeur? Est-ce dans le visage d'une personne qui recherche, qui s'attache à ce qui est beau, ce qui est bien, qui a une vraie vie intérieure? Ou est-ce que c'est dans un corps sain et sportif, mais toujours menacé par être simplement superficiel? Nous croyons que le corps est intimement déterminé par l'esprit, et même de façon décisive. Ainsi, le visage buriné d'une personne qui lutte pour la vérité n'est pas seulement plus spiritualisé, il est plus visage que celui d'un homme borné. Il est plus authentiquement corps de chair, plus intensément. Il en va de même d'un homme au cœur bon, désintéressé. Il y en a non seulement plus d'âme que dans celle d'un homme égoïste et intérieurement fruste, mais le corporel lui-même est plus vivant. Il y a deux choses à faire pour aimer son prochain. Regardez son visage. Regardez son visage. Et ne jamais oublier la règle d'or. Ne pas lui faire ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Regardez son visage. Il y a autant de façons d'être que de façons d'aimer. Nous croyons qu'une seule conduit à la sainteté, celle dont nous faisons l'expérience à chaque messe, quand, après avoir communié au corps du Christ, après avoir reçu Jésus, nous le faisons, laissons vivre en nous. Le Christ qui vit en nous, par lui est donné à celui qui lui ouvre son cœur, de pouvoir aimer Dieu corps et âme, de l'intérieur. Aimer Dieu de toute son âme.